Alors bon, Hachem, on continue notre shiur de Nar. Voilà, donc en fait, je garde le chapeau aujourd'hui parce que c'est demain c'est Rosh Hashanah. Donc il faut avoir au moins l'ambiance de Rosh Hashanah, la peur et la crainte. Après, je vous expliquer c'est quoi la crainte qu'il faut avoir. Déjà, je fais un petit résumé. On avait expliqué ça, mais ce n'était pas à filmer. On avait expliqué qu'on a dit, il y a ce qu'on appelle le Tanakh. Tanakh, ce qu'on traduit en français, la Bible. Quand on dit Tanakh, Ta, le Tav, c'est Torah, très bien. Nun, c'est quoi?
Nevi'im.
Donc la Torah, c'est la Torah. Nevi'im, c'est les prophètes. Et le Kaf, c'est Ktuvim, c'est les écrits. C'est quoi la différence entre les Nevi'im et les Ktuvim? C'est quoi la différence? Torah, on sait, Torah, c'est tout ce qu'on a. Ouais, tout ce que les Bnei Israël ont passé en Égypte, quand ils ont reçu la Torah avec Moshe, ouais, tout le cursus, la sortie d'Égypte, Avraham, Yitzhak, Yaakov, la sortie d'Égypte, etc. Après, on a fini avec Moshe, on rentre dans le Nar. C'est quoi le Nar? Nar, c'est Nevim, Tuvim. C'est quoi Nevim? Nevim, c'est des prophètes. C'est quoi un prophète? Il reçoit de la. En fait, le Navi, il reçoit d'Hachem, ouais. Ou bien en rêve, ou bien quand il est réveillé, il reçoit un message qu'il doit transmettre au peuple. Ça, c'est un Navi. Après, on va voir qu'entre le Navi et les Ktuvim, il y a quelque chose qui n'est pas écrit, mais ça s'appelle Shoftim. C'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Shoftim, Shofet, c'est comme un juge. C'est des juges, c'est pas un roi. Il y a des Shoftim et il y a des Melachim. Melachim, c'est les rois, on va arriver plus loin. Ouais, quand on va parler de Shlomo Ameler, David Ameler, c'est des rois. Alors que là, maintenant, on va parler de Shoftim. C'est quoi Shoftim? Shoftim, c'est quelqu'un qui remet il essaye de remettre un peu les problèmes. Il y a un gros problème, par exemple, les Juifs sont passés un peu en cacahuète. Il est là, le Shofet, pour le juge, donc c'est un grand saint sadique. Il est là pour remettre un peu, mais il essaye... C'est pas comme dit le Shem Mishmoel. Le Shem Mishmoel, il explique qu'il y a une différence entre un roi, un mélère et un chauffette, un juge. Un juge, bien qu'il va juger, il va diriger, mais il n'essaye pas de prendre... Par exemple, le Shem Mishmoel, il dit qu'on sait que David Améler, il a conquis la Syrie. Il a conquis la Syrie, il a réussi à la faire entrer dans Israël. Maintenant, pourquoi David Améler, une des premières choses qu'il a fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il avait besoin de faire? Alors il dit le Shem Shmuel parce que David Améler, comment il voulait exprimer sa royauté si ce n'était en allant conquérir quelque chose? Quand il va conquérir un pays, là ça exprime « je suis roi ». Alors qu'un chauffette, un juge, c'est pas besoin de prendre un terrain ou d'aller conquérir ou d'aller faire une guerre. Il n'est pas là pour faire la guerre, il est là juste pour mettre toutes les choses en règle, ouais, et mettre les... pendule à l'heure, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Ouais, il est là pour remettre les pendules à l'heure, c'est ça le chauffette. Donc on va parler de ça, mais avant ça, juste on fait une petite révision avec tout ce qu'on a dit. Donc déjà, Torah, Tanakh, Torah, c'est la Torah, donc c'est Torah, c'est les cinq livres, ouais, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. On finit la Torah, on passe au Nar, Nevi'im, et ça commence par Yeshua. C'est quoi les Nevi'im? Nevi'im, comme on a dit, c'est des... ceux qui ont reçu un message de Dieu qui doivent le transmettre. Après, il y a les Shoftim, bon, on l'écrit pas dans le Shofet, c'est un peu comme un avis, on va dire. C'est un juge aussi, peut-être des fois il reçoit des messages. Et après, ce qu'on appelle Ktuvim. C'est quoi Ktuvim? C'est comme par exemple Daniel, Ezra, tous ces gens-là, ça s'appelle Ktuvim. C'est-à-dire que ils n'ont pas ce qu'on appelle Hachem, ils ne leur parlent pas directement. S'appelle Ruach HaKodesh. Ils ont, comme Esther par exemple, Esther Amalka, elle a reçu un Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que Hachem, c'est quoi Ruach HaKodesh? On dit par exemple que les grands rabbins de notre génération, les grands, 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 ils ont Ruach HaKodesh. Ça veut dire quoi? Alors je peux l'expliquer par exemple dans une vision. Vous savez que l'optique de l'œil par exemple, quand je suis comme ça, je vois mon champ de vision, il est comme ça et il est un peu élargi. Je peux voir un peu à côté s'il y a quelqu'un qui veut, tu vois, mais derrière, je vois pas. Tu vois, mais il y a des. Donc, par exemple, quand il arrive une catastrophe, mon champ de vision avec mon cerveau, il peut comprendre ce que je vois. Je comprends ce que je vois. Je comprends que le type s'est pris un poteau et j'arrive pas à comprendre parce que le type il venait tous les matins à Tfila et il est mort et je comprends pas pourquoi. Ok? Ça, c'est hier, par exemple, pour vous dire c'est quoi l'histoire. Hier, dans les informations, il y a eu un rave, il est allé dans le nord. Avant Rosh Hashanah, il voulait aller prier dans les Kivrei Tzadikim, chez les Rabbanim, chez le Harizah, chez tous les grands Rabbanim. Il y a des gens qui se préparent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous, demain sur Rosh Hashanah, comment vous préparez? Vous me dites, on est cool. Mais il y avait un rave, une fois, il s'est mis devant un tribunal. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fabriques dans un tribunal? En plus, un tribunal, ça se fait pas, tu vois. Il a dit, non, je regarde, j'essaye de réfléchir. C'est qui la personne que je sens qu'il est prêt à rentrer au tribunal? Et c'est qui la personne qui arrive zen? Tu sais, il y a un type, par exemple, qui est bien préparé, il arrive avec deux avocats, ou bien qu'un avocat. Les gros, qui ont des gros problèmes, ils arrivent avec des cabinets d'avocats, ça fait classe, tu vois. Ouais, il y en a un en Israël, il s'appelle un grand avocat, je ne dirais pas le nom, parce qu'on est en vidéo. Et lui, quand lui-même, ils lui ont fait un problème, il y avait deux cabinets d'avocats qui l'entouraient. Tu vois, il est rentré dans une salle, une audience, avec 10 personnes. Tu vois, ça, tu sens qu'il est prêt à attaquer. Et quand il arrive comme ça, je peux t'assurer qu'il gagne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a des gens qui arrivent zen, comme tu dis zen, j'arrive zen, tout cool, tout chousse. Ce qui va se passer. Mais non, tu peux... Peut-être que... Nahon, quand on regarde, tu vas me dire, ouais, mais l'année dernière, j'étais zen, j'étais cool à Rosh Hashanah et tout. Regarde, Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, en attendant, je vis, ok? Mais c'est pas vrai, regardez ce que je vous ai dit, le rave hier, ce rave-là, il allait donc prier au Kivrei Tzadikim, et après, je sais pas comment il est arrivé, il est passé devant le fleuve du Jourdain là-bas. Il a dit, bah, si déjà je suis là, il a dit à ses enfants, venez, on va pas que prier, on va aussi un peu rentrer un peu dans l'eau, il faisait chaud et tout, donc il commence à rentrer dans sa famille, et puis la petite, il y a du courant là-bas, ils font du kayak là-bas, il y a du courant, la petite, elle a commencé à noyer. Vite, le père, il a sauté pour la sauver. Il a sauvé et lui, il s'est noyé. Type, il a 46 ans, je crois. Ouais, ou bien 49 ans. Il a laissé une famille, des enfants. Elle a 4 ans, une seconde. Tout ça, ça a été décidé quand? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ouais. Il y a une femme dans le journal, une femme qui était non religieuse. Elle a eu la maladie en plein milieu de l'année. Elle a écrit dans le journal, elle a dit, si on m'avait dit le jour de Rosh Hashanah, on m'avait averti que cette année-là, que j'allais avoir la maladie, mon Rosh Hashanah, il aurait été différent. Ça a été complètement différent. J'aurais pris mon Rosh Hashanah, j'aurais cassé les briques. J'ai entendu tout à l'heure à la radio la petite fille de Rav Nachman Breslev. Ouais, 6 générations. La petite. Rav Nachman Breslev, ils ont dit, c'est la. Nin, c'est la 6e génération de Rav Nachman Breslev. Si, il a eu Rav Nathan, il a eu Nathan. Non, il a eu un fils. Mais qu'est-ce que c'est l'essence? C'était une grand-mère qui a presque 100 ans, Léna, elle a 94 ans. Ils l'ont passé, elle a parlé à la radio. Ils ont dit, explique-nous, c'est quoi la tefila, la tefila. Elle a dit, moi, j'y crois à la tefila, mais je ne vous dis pas comment j'y crois à la tefila. Pour moi, la tefila, c'est quelque chose de kadosh. Je veux dire, il n'y a pas. Une fois, elle a dit qu'une fois, ils ont fait une radio, ils ont fait une biopsie, et ils ont trouvé qu'elle avait un cancer. Ils ont dit, donc, il faut faire une opération, etc. Et c'était compliqué. Et elle a dit, je ne fais pas d'opération. Je dis, mais quoi, tu ne fais pas d'opération? Oui, tu fais une opération, c'est dangereux pour toi, maman. Je dis, je ne fais pas, je vais prier. Elle a dit qu'elle a prié. Ils ont fait une autre biopsie. Et bon, Hachem, ils n'ont rien trouvé. Elle a dit, tu vois, la tefila, elle me dit, la tefila, elle a d'abord que quelqu'un y prie et ne s'est pas répondu. Alors, tu vas me dire, oui, moi, j'ai 25 ans et j'ai prié pour trouver mon zivouk et je ne suis pas marié. Ok. Hachem, il attend, peut-être qu'il attend que tu vas devenir un peu plus mûr, que tu vas t'arranger financièrement, que tu vas ci, que tu vas ça, ouais, et que peut-être t'as aussi celle qui t'attend, elle aussi a besoin de se former, et pour venir, et besoin d'Hachem, vous avez formé un bon couple. Mais tout ça, c'est grâce à quoi? À la tefila. Donc, les maasés, avant de parler de Rosh Hashanah, ouais, on est passé à Rosh Hashanah à l'envers, mais c'est pas grave. C'est quoi Tanakh? Torah, Nevim, Tuvim. Donc Torah, c'est 5 livres. Nevim, c'est Yoshua, etc. On va voir Shmuel et tout ça. Et après, on arrive au Shoftim, c'est au milieu, mais c'est pas écrit. Shoftim, c'est des juges qui sont pas des rois, comme on a expliqué. Et après, il y a quoi? C'est les Ktuvim. Les Ktuvim, c'est par exemple Esther, Daniel, Ezra, Asopher. Tous ces gens-là, c'était des. Ils avaient le roi Kodesh, comme je dis, Raphaël Kanievski, par exemple, les Rabbanim. C'est ça que j'étais en train d'expliquer. Nous, on n'arrive pas à comprendre, voilà, cette histoire-là d'hier. Le type, logiquement, il allait dans le nord, pas pour s'amuser, il allait pour prier. En passant, il s'est fait un petit kayak, ça va, il a le droit. Ouais, en passant, il voulait se faire une petite trempette. Il y a quelque chose de mal, et il est mort. Tu arrives à comprendre, toi? Je prends la tête. Tu arrives à comprendre pourquoi il y a 6 millions de juifs qui sont morts? Je prends la tête, Nahon. Parce que nous, on a le champ de vision comme ça. Mais si on nous élargit, quand on va arriver en haut, on va nous élargir un peu plus le champ de vision, tout va être compréhensible. Ah, je comprends. Ça, pourquoi ça? Pourquoi je suis venu à Yeshiva? Et pourquoi si? Pourquoi quand je suis arrivé à Yeshiva, ma copine m'a cassé? Et pourquoi si? Pourquoi ça? Tout ça. Pourquoi 3 mois avant que je vienne à Yeshiva, ma copine elle a cassé avec moi? Et ça m'a fait du mal. Parce que justement, si elle n'est pas cassée avec toi, tu ne serais pas venu à Yeshiva. Tous ces trucs-là, c'est une avalanche de choses qui fait que je te vois pas. C'est une avalanche que quoi qui fait que ça cause tout ce inyan là, je te vois là, tout ce inyan là, ça fait que le champ de vision c'est Ruach HaKodesh. Donc ça c'est Nevim Ktuvim, ok? Alors c'est ça. Maintenant, donc si on répète, on fait une petite révision rapide. On a parlé de Yoshua, passation de Moshe à Yoshua. Yoshua c'est lui qui va faire entrer Israël en Israël. Donc premier Nes, le Jourdain s'ouvre. Après que le Jourdain s'ouvre, ils prennent des pierres, les amènent dans Areva, à l'Argérésime, ils amènent ces pierres-là, ils écrivent toute la Torah dessus en 70 langues. Après, ils attaquent Jéricho. Ils sonnent du chauffard, Hachem, 7 fois, ils tournent autour des murailles. Et après, le 7e jour, boum, tous les murailles, ils s'engouffrent dans le parterre, ils restent à 1 mètre, le Nes, ils rentrent, ils attaquent, et ils tuent tout le monde. Ça, c'est le 12e Nes. Et après, ils attaquent à Haï. Mais à Jéricho, il s'est passé quelque chose de pas bien. Il y en a un qui a piqué, il a piqué des pierres, il n'avait pas le droit. Tout était réservé pour le Beth Amidash et lui, il l'a gardé. Comme il y en a un qui a fauté, tellement qu'ils étaient à un niveau super tous, il y en a un qui a fauté, ça a causé que quoi? Que tout le monde, il paye. Ils ont commencé à attaquer à Haï, ils se sont fait défoncer. Yoshua, il arrive, il dit, Hachem, à quoi tu joues? Tu me dis qu'on va gagner, on perd. Il dit, parce qu'il y en a un qui a fauté. Ils l'ont trouvé, ils l'ont tué, et après, ils ont commencé à gagner. Et entre, ça je ne l'avais pas dit ça, l'Agma dans Megillah d'Av Gimel, elle raconte qu'il y a un malheur qui est venu, ça c'est écrit, mais l'Agma, dans le Nar, il n'y a pas écrit. Et l'Agma, elle exprime plus. Il y a écrit qu'il y a un malheur qui est venu, et il a dit bonjour le soir, il a dit bonjour à Yoshua. Shalom. Et on sait que le soir, avant, il y avait beaucoup de Shindalet. C'est des mauvais esprits, c'est des démons. Donc si quelqu'un te dit bonjour, tu ne dis pas bonjour. Tu vois quelqu'un la nuit, tu te sauves, parce que c'est un type, c'est un shed, ouais, c'est un shindalet. Et donc, Yoshua, il lui a quand même répondu. L'Agma, il dit, mais comment il a pu répondre? Il dit, parce qu'il lui a dit shalom, alors quand on dit shalom, un démon, il ne dit pas shalom. Bref, c'est un malar. Il lui dit, regarde, hier, vous n'avez pas amené le sacrifice. Que, là, ils étaient avec Yoshua, il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, parce que ça va arriver au temps de Shlomo, mais il y avait le Mishkan. Le Mishkan était créé quand ils étaient dans le désert et ils le suivent. Après, il va s'arrêter à Gilo 369 ans, c'est facile, 369. Ouais. Et tout le temps qu'il va être à Shiloh, interdit de faire des sacrifices autres que Shiloh. Bref, mais avant qu'il y avait Shiloh, on pouvait faire, chacun dans son petit jardin, il pouvait mettre un petit autel et faire des sacrifices. Ok? Bien qu'il y avait le Mishkan, ça s'appelle Outro Abamot. Les hôtels, ils étaient permis. Donc, je continue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le malheur, il vient, il dit, regardez, hier, t'entends, il dit, hier, vous n'avez pas amené de Corban. Et aujourd'hui, vous n'étudiez pas. Alors, Yoshua, il dit, attends. Tu viens, tu m'attaques fois deux. Sur quel tu es venu aujourd'hui? Sur quoi? C'est quoi ton problème aujourd'hui? C'est le Corban ou c'est la Torah? Je lui ai dit, je suis venu pour maintenant, c'est-à-dire pour la Torah. Alors tous les commentaires, ils disent, mais je ne comprends pas, bon sang et bonsoir. Ils sont en mode guerre là. Quelle Torah? Tu vas ouvrir une Gemara quand tu es en guerre? Tu es à la Kalash, tu veux déchirer tout le monde. Quelle étude? Alors le Rav de Polovich, il avait expliqué comme ça. Il dit que dans la Torah, il y a deux parties dans la Torah. Il y a la Torah qu'on étudie, comme on étudie à l'Yeshiva. Et il y a une Torah qui s'appelle une Torah... Comme il dit Tosfot là-bas d'Av Gimel, Ve'atem kidvu lachem et ha'shira azot, ouais, sima befiem. Ça veut dire que la Torah, elle est en mode shira. Shira, c'est en mode chanson. Tu sais, il y a des chansons qui peuvent te. Tu sais, il y a des gens que tous les matins, tu vas chanter la même chanson. Nahon, sans réfléchir, c'est la Torah, la chanson, elle vient. Dès que tu te lèves le matin, tu es en bonne humeur, ouais, je chante, ouais, tu chantes. Une chanson, une classique que tu aimes bien. La Torah, elle est pas stam, la Torah. C'est pas stam, on l'étudie. Elle est comme une chanson, c'est sans arrêt, sans arrêt. C'est ça qui vient à Kachbaruch Hu. Il vient, on raconte sur Rav Eliashiv que quand il y avait la guerre, il y avait des plaintes de bombes qui tombaient, je ne me rappelle pas quelle guerre. Alors Rav Eliashiv, il était dans une cave, dans un miklat, ouais, dans un endroit protégé. Rav Eliashiv était dans un endroit protégé, il était avec un non-religieux qui ne supportait pas les religieux. Et Rav Eliashiv, il était avec sa Gemara, parce qu'il ne lâche pas sa Gemara, vous pouvez le voir sur Internet, même sur YouTube, je crois qu'on peut le voir. On voit Rav Eliashiv comme ça. Et des heures et des heures et des heures, il étudiait. Et l'autre, il dit, mais arrête, lâche un peu ta Gemara, tu vois pas, c'est le moment de prendre la Gemara, il y a des bombes qui tombent. Et à la fin de la guerre, le non-religieux qui ne supportait pas les religieux, il a dit, écoute, il y a un truc que je peux dire, en tous les cas, c'est que tu es un bon. Les bombes lui tombaient, le type ne bouge pas de sa Gemara. C'est un truc de fou, quoi. Il a dit, mais comment c'est possible? Toi, tu es un vrai, toi, tu es... Même moi qui n'aime pas les religieux, mais toi, tu es un vrai, c'est pas... Ouais, il y a des gens qui font du Kiddush Hashem, mâche. Il y a des gens qui étudient, et même si on n'aime pas les religieux, les non-religieux, ils vont aimer ce religieux. Parce qu'une personne qui étudie, comment ça s'appelle? Une personne qui étudie, sa Torah, elle est claire. Donc même si tu n'aimes pas la Torah, tu as envie de me déchirer, ben, la Torah, elle m'éclaire tellement que tu peux pas, c'est impossible, c'est pas possible. À moins que tu aies un mauvais stamp, le type c'est un idiot, il est mauvais, ouais. Mauvais joueur, il va stamp parler, ouais, c'est religieux, parce qu'il... Ouais, en fait, c'est une réponse pour lui. C'est pas une question. Là, une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez Afraïm, il lui a dit... un bachou, il est allé chez là, après il a sorti, il a lâché tout. Et une fois, il a rencontré son Rafraim de Brisk, un grand rave. Il lui a dit, Rafraim, j'ai plein de questions sur la Emouna. Sur la Emouna, sur la croyance. Il lui a dit, écoute ce qu'il lui a répondu à Raphaël. Il lui a dit, si tu as des questions, moi j'ai des réponses à toutes les questions. Mais il faut que ce soit des questions et pas des réponses. C'est-à-dire là, maintenant, ce que tu vas me dire, c'est en fait, je vais essayer d'expliquer pourquoi tu as lâché la Torah. Ça ne m'intéresse pas. Si ça a des vraies questions, alors je peux t'aider à répondre. Mais si en fait tes questions, ce n'est pas pour questionner, c'est pour répondre, ça, je ne peux pas t'aider. Parce que c'est pas ça le but du jeu. Bref, donc Rav Eliashiv, lui, sa Torah, c'était mamash une Torah comme une chanson. C'est-à-dire, c'était non-limoud, ouais. Comme on dit en yiddish, non-teire, ouais. Non-Torah, c'est genre sans arrêt, ouais, sans arrêt la Torah. Il ne s'arrêtait pas. Tu vois, Raphaël Kanevski, Blainara, le Rav, il a 100 ans, il ne s'arrête pas d'étudier. Mais comment? Comment on peut faire ça? Donc les maasé, c'est quoi le inyan de ce que j'étais en train de dire maintenant? J'étais en train de dire que le malach, il est venu chez Yoshua, il lui dit, dis-moi alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Sur quoi tu es venu? Je suis venu sur la Torah. Mais c'est-à-dire quoi la Torah? Je suis en guerre. Oui, mais toi, tu as une madriga, tu entends Rav Gershon? Tu as une madriga tellement haute, c'est un niveau très haut, que toi ta Torah, c'est pas une Torah que tu étudies comme à la Yeshiva. Ta Torah, c'est comme une chanson. Donc comme on aime chanter, on aime étudier. Donc c'est pas possible que tu as... Même si c'était les vacances, c'est pas possible que tu n'as pas ouvert une Gemara. Parce que toi, ta Torah, c'est pas juste une étude pour extérieur. Ta Torah, c'est ta vie. Donc comme tu peux pas vivre sans respirer, tu peux pas vivre sans étudier. Donc il est venu le malach, il lui dit, écoute, il y a un problème. Tu t'es arrêté d'étudier le Shoah, pas de Korban, ok, on laisse tomber. Mais Torah, ta Torah, où elle est? Il y a écrit, va yalan Yeshua balaylaou. Omer sa gemo et megile, la gemo dit dans megila, davgime la moudbet, melamed shelan beumko shel aloche. On apprend que Yoshua shelan beumka shel alacha. Il est rentré, c'est quoi, il a dormi, va yalan, d'habitude il a dormi, là il ne sait pas qu'il a dormi, il est rentré dans le plus profond de l'alacha, cette nuit-là. Donc tu vois comment Yoshua, de suite, ce temps-là, c'était tous des tzadikim, il n'y avait pas de, tu vois, tous c'était des bons. Yoshua, il arrivait, c'était un monstre. Non seulement il faisait les guerres, mais en plus il arrivait à diriger que tout le monde, ils aient la crainte de Dieu. Ouais, parce que Yoshua, il descend de Ephraim, ouais, de Yosef. Et Yosef, c'est quelqu'un de... Yosef, c'est toujours quelqu'un qui a réussi, comme on l'a dit, à faire descendre les choses d'en haut vers le bas. Comme on l'a dit, que Yosef, il n'a pas voulu détrôner Yehuda, mais bien au contraire. Il a dit à Yehuda, c'est toi le roi. Mais pour que tu sois roi, tu as besoin de moi qui télécharge les choses d'en haut vers le bas. Et après, moi, je ne sais pas gérer. Yosef, il ne sait pas bien gérer. Il n'arrive pas bien à gérer les choses. Mais il arrive à télécharger les choses d'en haut vers le bas. Toutes les choses compliquées, par exemple, de rentrer en Israël, toutes les choses nouvelles, c'est Yosef qui les fait. Nahon, rentrer en Israël, toutes les choses compliquées, c'est Yosef qui le fait. Mais après qu'ils sont rentrés en Israël, Yosef y part, enfin la tribu de Yosef y part, et là c'est qui? C'est Yehuda qui va se... Après que c'est en bas, c'est Yehuda qui s'est géré. Okay, c'est pour ça qu'on dit Mashiach ben Yosef, et après Mashiach ben David. Yosef, il télécharge d'abord le Mashiach, après qu'il a téléchargé, Yehuda il peut le prendre en main. Ouais, Yehuda il s'est géré. Alors que, mais il sait pas, il n'a pas d'idée, il n'a pas... Tu vois ce que je veux dire? Il y a le moteur, tu vois. Moi, il y a par exemple une personne qui sait faire... Il s'est inventé, je suis l'inventeur, j'invente. Mais après, moi j'ai plein d'idées, tu vois. Mais après, j'ai plein d'idées, mais après c'est compliqué l'histoire. Tout ce que j'ai comme idée, c'est super. Je dis à mes copains, voilà, j'ai ça. Je pense que c'est un bon plan. Mais après, quand je vois que c'est compliqué, il faut ci, il faut ça, il faut ci, je laisse tomber, c'est, ça se fera jamais. Et il y a des gens que pour eux, ces trucs-là, ils s'inquiètent pas parce qu'ils sont, tu vois, ils savent gérer. Ça, c'est la différence entre Youssef et Yehuda. Bref, donc ce que j'ai en train de dire, donc ils ont que Yoshua, il attaque à Haï, il défonce, lui, il doit tuer les sept. En fait, il doit tuer les sept, comme on a dit, les sept pays. Les sept, qu'on lit dans Vaïva David, Achivi, Vaïvoussi, Vagriashi, ouais, tous ceux-là, il doit les tuer. Mais à part ça, ils sont mêlés dans cela, il y a des gens qui sont rentrés dans la guerre. Stam des gens, pas, c'était pas des guerres de mitzvah, mais c'était des gens qu'il fallait tuer. Parce qu'ils voulaient, ils voulaient pas que les juifs y rentrent. Des gens qui habitaient là-bas, mais ils faisaient pas partie des sept peuples. Et quand même, il les a tués. On va voir que Yoshua, il a tué combien en tout? 31. 31 rois, il a tué. Par contre, il a fait un massacre. Donc, Ahai, il a attaqué. Après, Ahai, qu'est-ce qui se passe? Il attaque. Après, il se passe l'histoire de Givon, comme on l'a raconté. C'est quoi Givon? C'est l'histoire de. Givon, là, c'est un pays qu'il fallait abattre. Et ils ont fait une magouille. Ils sont venus, comme je vous ai dit, ils sont déguisés en comme si c'était des gens loin. Donc, ils ont fait jurer. Ils ont fait jurer Yoshua. Donc, Yoshua, il ne pourrait plus les tuer à cause de que dira-t-on. Donc, il les a gardés, coupeurs de bois et puiseurs d'eau. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas se marier avec eux. Maintenant, on appelle ça dans la Gemara, dans le chasse, Tuvot, Daf, Kaftet. Ouais, on appelle ça les Netzinim. Netzinim, c'est les gens Natin. Ouais, Natin ou Mamzer, tu peux le voir dans tout le chasse. Ouais, presque dans chaque Maseret, tu peux en voir ce Natin ou Mamzer. Mamzer, ouais, c'est quelqu'un qui a. C'est une femme qui est mariée, par exemple. Une femme qui est mariée avec une autre personne, c'est Mamzer. Et Natin, il fait partie de ces Givon, de ces Givonim. Il fait partie de ces gens-là qu'ils ont fait le shalom. Mais le shalom en ruse. Et ça, Yoshua, il a pas aimé, mais il pouvait rien faire. Donc il a tué tous les peuples, sauf ce peuple-là, il l'a pas tué. Donc je continue. Après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Donc on est dans la suite. Givon, ça se passe bien. Après, il y a une. Après que Givon, ils ont fait la paix, il se passe qu'il y a cinq rois. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire des cinq rois? Ouais. Les cinq rois, au début, ils avaient fait avec Givon, donc c'était six, ils sont réunis ensemble. Pourquoi? Pour attaquer les juifs. Givon, on avait dit qu'il s'était mis à l'extérieur, il s'est sauvé parce qu'ils avaient une ruse. Quand les cinq rois, ils ont vu que Givon, ils sont mis de côté des juifs, là, ils étaient super énervés, ils ont dit on va attaquer les juifs et Givon. Et voilà qu'ils attaquent. Hachem, il dit ben, c'est très bien, tu en as cinq d'un coup, pas d'une pierre deux coups, tu as cinq d'un coup. Tu fais une grosse guerre et tu en as cinq comme ça. Et Hachem dit, t'inquiète, je vais t'aider. Donc Hachem, la guerre n'était pas que physique, elle était aussi un miracle, comme on a dit la semaine dernière. Hachem, il a envoyé des pierres du ciel, il en a tué. Les cinq rois, Mina Shamaim, ils sont réunis, les cinq, dans une grotte. Yoshua, il les a bloqués. Ils ont fait la guerre. Maintenant, il y avait un problème de jour. Là, c'est, ça s'appelle Shemesh Begivon Dom. Dom. Vous savez qu'à l'armée, quand il y a le jour de la Yom HaZikaron, par exemple, le jour de rappel des soldats. Alors, ouais, on dit Amod, Dom. Ouais, les soldats, on dit Dom, ça veut dire genre, stop. Ouais, et c'est quoi Dom? Ils l'ont pris de quoi? De Yoshua. Tout ce qui est tout ce qui est en Israël, c'est pris beaucoup du Tanakh. Même les idées, ils prennent du Tanakh. Ils essayent de faire des. Ouais, toutes les idées du. Il y avait plein de ruses dans le Tanakh. Comment abattre des gens? Comment faire? On va voir. Il y a beaucoup de ruses. Ces ruses-là, les Israéliens, ils l'ont pris. Ils connaissent par cœur. Les Israéliens, ils connaissent par cœur la Bible. Même ceux qui ne sont pas religieux. Bibi Netanyahu, il a fait le. C'était le champion du Tanakh, je pense. Ou son fils. Il y a plein, chaque année, des champions de Tanakh, ils connaissent, mais quand je dis qu'ils connaissent, pas Stam, ils connaissent tout par cœur, quoi. Tu peux leur poser, bon, ils connaissent un peu léger, quoi, c'est-à-dire pas avec les commentaires, etc., mais ils connaissent très bien, quoi, par cœur, tout la Bible. C'est important de connaître, quoi. Donc après, c'est pour ça qu'on étudie. Donc, il s'est passé Shemesh Begivon Dom, c'est-à-dire que Yoshua, il avait un problème, avec, il voulait pas que le jour se finisse parce que c'était Shabbat. Donc il a demandé au soleil, monsieur arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Et voilà qu'ils ont fini la guerre, ils reviennent. Il y a les cinq rois dans la grotte, ils les font sortir, ils les tuent, ils les rentrent dans la grotte. Et ça se finit l'histoire de Shemesh Begivon Dom. Ça c'est entre aussi... et voilà que... Donc après, il y a Yoshua, il commence à faire plein de guerres encore avec plein de d'autres peuples. Donc comme je dis, ils ont fait la guerre avec 31. Juste une parenthèse, que il y avait Yoshua, il avait décrété que Jéricho interdit de la reconstruire, elle était détruite, on peut pas la reconstruire. Et celui qui va la reconstruire, le jour qu'il va commencer son premier né, il va mourir. Et quand il va finir la ville, son dernier va mourir. Et il y en a un qui s'appelait... Je vais vous dire... Est-ce que les dessins, là hein? Chiel Bet Eli. Chiel Bet Eli, lui, il a dit, venez, amenez-moi du matos et je reconstruis Jéricho. Mais on dit, attends, mais Yoshua, il a fait une malédiction. On n'a rien à faire, viens, je construis. Il a commencé. À peine il a commencé, tu vois pas que son premier-né, il est mort. Non, c'est pas ça, Stam, il avait une maladie, il a eu le cancer, allez-nous. Il a commencé, il en avait, je crois, 11 des enfants. Un par un, il est mort. Mais toujours, non, c'est rien. Jusqu'à que quoi? Que tous ses enfants, ils sont morts. Et le jour de l'inauguration de Jéricho, le dernier, boum, il meurt. Pour te dire que ce que Yoshua, il avait dit, c'était inscrit. Encore une fois, on voit que Yoshua, tout ce qu'il disait, c'était la tzidkout. Tout le temps, Yoshua, c'est pas parti en cacahuète. Yoshua, il a réussi à rester tous les états de tzadikim. Yehuda, ça part en cacahuète. On va voir, les rois de Yehuda, ils vont partir un peu en cacahuète. Là, Yoshua, il a stabilisé. Tout le temps qu'il était là, il a stabilisé l'histoire. Tout était sous contrôle. Donc, il a fait plein de guerres. Et après, la fin de Yoshua, ça se finit par le partage. Par le partage de quoi? Donc, le partage d'Eretz Israël, Naron, 7 ans de conquête, 7 ans de partage, 14 ans en tout. Donc, 7 ans de guerre et 7 ans de partage. Et ils ont partagé, chacun il a reçu sa part. Et les deux tribus ennemies, ouais, Reuven et Menaché et Gad, Gad et Hatsi Shel Menaché, ces deux tribus ennemies, eux, Yoshua, il leur dit, écoutez, vous avez fait du bon travail, vous avez. Ce que vous avez promis à Moshe, que vous avez fait d'abord la guerre, après revenir dans... Vous avez bien respecté. Donc, je vous nomme, vous pouvez retourner dans votre endroit et chacun prendre ce qu'il y a à prendre. Ils retournent et tu vois pas qu'ils montent, ils dirigent un hôtel. Un hôtel, c'est pas un hôtel. Un hôtel, c'est un misbéar pour faire des corbanotes. Dès qu'ils ont fait ça, les 10 personnes de chaque tribu, ils ont énervé, ils ont commencé à se chauffer, ils ont dit on va les tuer. Pourquoi on va les tuer? Parce que pour eux, encore une fois, Gershon, tu vois comment ils étaient tzadikim dans le temps de Yoshua. Ils ont dit regarde, jusqu'à maintenant on est clean nous. Ils sont venus chez Reuven et Gad et Chassi chez Beth Amenaché, ils ont dit regarde, tu te rappelles avec Achan, il avait fauté, on allait perdre la guerre à cause d'un idiot. Alors que tout le monde était tzadikim, il y en a un qui a fait le fou. On s'est pris tous une claque. Tu veux? Qu'est-ce que vous faites là maintenant? Vous êtes en train de faire une avéra. Pour eux, c'était interdit. Comme c'était interdit de monter un misber en dehors d'Israël. En plus, il fallait que à Shiloh ou bien un endroit où il y avait le Mishkan. Pas, c'était pas permis de faire des misbers personnels. Donc, ce que vous faites là maintenant, c'est pas bien. À cause de vous maintenant, à cause de votre faute, qu'est-ce qu'on va avoir? On va mourir. Est-ce que c'est logique qu'on va mourir? Oui. Donc, vous arrêtez de suite. Alors, de suite. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi, quand on te chauffe? Coup de tête balayette, ouais, de suite, tu t'énerves et tu essayes de faire quoi? Tu essayes de te venger. Quand on vient, on t'attaque, toi aussi, juste parce qu'il t'attaquait, tu vas juste attaquer, ouais? Tu vas commencer à dire, oh, qu'est-ce que tu me veux? Vous voulez vous battre? Venez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, ils sont écrasés. Ils ont été, comme la Gemara dans Rosh Hashanah dit David Zayin, Kol ha-ma'avir amidotav, ma'avirim lo rov peshav. Tout celui qui ma'avir, tout celui qui s'écrase, on lui enlève tout sa avérot. C'est-à-dire que tu peux faire tout l'avérot, les 400 coups du monde, les 400 coups, tous les grosses avérot, mitzvot, t'en as pas beaucoup, mais à côté de ça, ça a été ma'avir amidotav. C'est-à-dire qu'une fois, il y a un type qui t'a fait un sale coup, tu avais envie de le frapper, tes nerfs, ils ont commencé à se chauffer et tu t'es calmé, tu n'as rien fait, tu as pris sur toi, il t'a fait une super honte, tu as dit je veux me venger, je veux défoncer dans tout le monde pour me venger, et tu ne l'as pas fait, ma virimlo alcool bécha, c'est-à-dire qu'on t'enlève, puisque Hachem il dit, ben, regarde, il avait toutes les raisons de s'énerver, il ne s'est pas énervé, ben, moi aussi, je veux faire la même chose, j'ai toutes les raisons pour m'énerver, mais je veux faire la même chose, comme lui, c'est-à-dire Hachem quelque part, il se comporte comme toi, d'accord? Donc c'est ce qu'ils ont fait les deux tribus ennemies, ils ont dit regarde, nous ce qu'on veut, on a fait un hôtel parce qu'on a dit, imagine que nos enfants, quand nous on va mourir, ils voudront rentrer en Israël pour amener un corban et vous n'allez pas le laisser rentrer. Ils n'ont pas, eux aussi ils ont envie d'une proximité, ils ne l'auront pas. Donc ils ont envie de cette proximité, c'est pour cela qu'on a fait le misber, mais non pas pour faire une avéra, et Dieu peut témoigner qu'on n'est pas là pour faire des avérotes, et au contraire on est dans le bon chemin. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit ok, et on serre la main, ils disent bon, on est content, tout le monde est tzaddique, on peut continuer. Et la fin se finit, Yoshua, il meurt. Mais comme Yoshua, il n'a pas fini tout à fait le travail, parce qu'il a tué les sept peuples, sauf Givon, mais il reste beaucoup de non-juifs qui n'aimaient pas les juifs, qui n'aimaient pas l'Israël. Donc il fallait les faire la guerre. Et ces non-juifs, non seulement il faut faire la guerre avec eux, mais en plus, ils sont des personnes qui ont la mauvaise influence. Et bien sûr, doucement, doucement, ils ont commencé à se faire influencer. Et voilà que les Israël, encore les Juifs, après que Yoshua, ils commencent à mourir, ils commencent à pécher, ils vont faire la avodah zara. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant 18 ans, il y avait un roi qui s'appelait Eglon, qui n'était pas spécialement fort. Et de Eglon, il va descendre Ruth à Moavia. Et de Ruth, il va descendre David Améner. Ouais, alors ce roi Eglon, il n'était pas spécialement fort et tout. Et là, ils ont commencé à leur prendre une ville à côté de Yericho qui était plein de dattes et plein de fruits super bons. Ils faisaient payer des impôts, etc. etc. Et ils ont fait souffrir. Et ils n'ont pas compris le message qu'il fallait faire tchouva. Hachem voulait leur faire souffrir pour faire tchouva. Ils n'ont pas compris. Jusqu'à ce qu'ils ont compris, Hachem a dit, ah, vous avez compris? Je vais vous envoyer quelqu'un qui s'appelle Ehud Ben Gera. Ehud Ben Gera, ça va être le sauveur des Juifs. Ça, je dirai la semaine prochaine. Juste, je veux parler quelques mots sur Rosh Hashanah. Demain, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah, Rudy? Mets-lui un petit coup de pression, mets-lui un petit tag. Voilà. Écoute ça, dans Rosh Hashanah, le jour de notre travail à Rosh Hashanah, c'est de prier. Prier, prier, prier. David Amelech dit, va ni tfila. Et moi, je suis un chefce de tfila, comme ça il disait mon rav, Rav Shlomo Zalman. Va ni tfila, moi je suis une tfila. C'est-à-dire quoi, moi je suis une tfila? Ça veut dire que notre travail c'est de faire une tfila. Il y avait une fois, on raconte sur une fille qui était petite, très petite, presque naine, et en plus elle était orpheline. Donc elle était naine, donc elle n'était pas belle, et orpheline, donc elle n'a pas d'argent. Et donc elle commence à grandir dans l'âge, hein. Pas dans la taille. Et voilà que quand arrive l'âge, toutes ses copines, ils se marient. Et voilà que toutes ses copines se marient, mais les comment ça s'appelle? Toutes ses copines se marient, mais elle se marie pas. Parce que elle, à part ça, elle a envie que quelqu'un qui veut être à fond dans la Torah. Et bien sûr, quelqu'un qui veut être à fond dans la Torah, comme il va pas travailler, il faut l'aider un peu. Donc encore une fois un problème. Elle est orpheline, donc c'est un problème. Donc elle travaille, elle met tout de côté et tout, on lui propose quand même des provisions, mais elle dit, moi je veux qu'un vrai, un qui est à toi. Et voilà qu'elle commence à devenir âgée, etc. Toutes ses copines, elles ont déjà des enfants presque à marier, et elle est toujours célibat. Et voilà qu'un jour elle craque, elle prend une lettre, en pleurant, elle dit, voilà, pour Hachem. Voilà, elle écrit en pleurant comme ça, Hachem, tu sais que je suis naine, et tu sais que qu'est-ce que je veux moi. Je ne suis pas obligée de me marier, mais je veux quelqu'un fonder une maison de Torah. Et il y a que toi, tu sais, tu m'as créé pour me marier, donc tu es obligé de t'occuper de moi. Et je compte sur personne, ni sur les chatraniot, ni sur personne qui va me proposer, il n'y a que toi qui va me trouver. Et voilà, elle prend la lettre, elle la ferme, elle écrit pour Dieu, elle va dans le champ, dès qu'il y a du vent, elle envoie comme ça en l'air, et la lettre, elle part. Et il y a un barreau de mire, ça fait longtemps, il va pour faire un peu like body doute, genre un peu se... C'est comme les bracelets, un peu se remettre en question comme ça dans le champ. Et il voit une lettre, il dit « Ah, je vais faire un Shabbat Aveda, la rendre. » Et il voit pour Dieu, donc il est curieux, il ouvre, et il lit toute la lettre, il dit « Purée, c'est ça là que je veux, moi. C'est ça là que je veux. » Il va vite chez son rav, il dit « Voilà, je veux cette fille-là, à tout prix, je sais c'est qui. Je veux Maïkel, parce que elle, c'est vraiment une vraie. » Elle avait 6 ans de plus que lui, hein. 6 ans, naine, pas belle et pas d'argent. Et voilà que... il s'est marié avec elle. Et il s'est marié avec elle, et ils ont fondé une maison, et lui, il devenait un très très grand rav. Ouais. Tout ça pour dire que quoi? Que la tfila, regardez la force de la tfila, comme on l'a dit tout à l'heure au début du cours. La tfila, c'est-à-dire que cette fille-là, elle a dit, voilà, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui me bénit. Souvent, par exemple, tu veux rentrer dans une boîte. Alors tu dis, voilà, mon copain, j'ai 5 copains dans cette boîte, c'est une grosse boîte d'informatique, il faut à tout prix que je les chauffe pour qu'ils me fassent rentrer dans cette boîte, par exemple. Ouais. Donc tu dis, je vais taper à cette porte-là, taper à cette porte-là, taper à cette porte-là, taper à cette porte-là. Et en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié qu'il y en a un, il y a un patron là-haut. C'est un problème. Mais vas-y directement chez le boss. Pourquoi tu tournes midi à 14h? C'est ça notre problème à nous. C'est que d'abord, avant d'aller faire notre prière, même si on fait notre prière, mais en fait, on n'est pas vraiment sincère que c'est lui le patron. On sait que c'est le patron, mais ça a l'air. C'est le patron, on t'aime, Hachem. Mais là, sur ce coup-là, j'ai besoin de lui pour me faire entrer dans ce resto, pour me faire travailler. Nakhon ou pas? J'ai raison? Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, le travail de Rosh Hashanah, c'est de montrer à Hachem, voilà, Hachem, toute l'année je t'ai délaissé, et là c'est quoi? Là, il n'y a que toi Hachem. Il n'y a que toi Hachem, il n'y a personne d'autre. Je ne compte que sur toi, c'est toi le roi. On dit dans Rosh Hashanah, Ze ayom trilat ma'asecha zikaron yom rishon. Aujourd'hui, ce jour-là, c'est le premier jour, c'est le rappel du premier jour. Ça veut dire quoi? J'avais entendu de mon rav, Rav Shapira, il avait dit comme ça. Il avait dit que, c'est quoi Rosh Hashanah? Le monde, il a été créé le 25 Elul. C'est Shabbat dernier, la création du monde est créée le 25 Elul. L'homme, il a été créé quel jour?
7 jours après. C'est le vendredi Shalom
Shishi. 6 jours après. Donc l'homme, il a été créé 6 jours. Donc si tu comptes du 25 Elul jusqu'à 6 jours après, tu arrives le 1er Elul. Le premier Elul, donc le premier Tishrei qui est Rosh Hashanah, en fait, c'est la création de l'homme. Donc, comme il dit Rav Lopian, il dit que chaque fête chez les Juifs, chaque fête, c'est comme un train qui tourne avec des arrêts de gare. Et toujours l'arrêt, ça va être la même. C'est-à-dire que quand on arrive à une fête, c'est pas comme les autres personnes qui peuvent avoir une fête une fois en été, une fois en hiver. Nous, il faut que notre fête, elle arrive à la même date, à la même heure que nos ancêtres, ils ont fêté. Quand ils sont sortis d'Égypte, par exemple, on fête. Quand on va manger la matzah, on va manger la matzah à la même heure, à la même seconde, au même jour, à la même période que nos ancêtres, ils ont fait. Et quoi? Qu'est-ce que ça fait de faire comme ça? Ça fait que à ce jour-là, c'est un jour clé. C'est-à-dire que c'est un jour où il y a plein d'influences qui tombent. Par exemple, à Pessah, on dit que c'est l'influence de liberté. Tu as des problèmes, tu as des soucis, tu te sens plus libre à Pessah. Ouais? Chaque fête. Souka, c'est la simra. Souka. Ouais, après que tu as passé les... Après qu'on a passé les 3 fêtes, ouais, on dit que le, on sait que le on sait que le Harizal, il dit un truc très joli. Le Harizal, il dit que on sait que les fêtes, ils vont en montant. On a Rosh Hashanah, après on a Yom Kippour, après on a Sukkot et après on a Shmini Atzeret. Alors le Harizal, il dit, je comprends pas. Je comprends que Yom Kippour, le jour du grand pardon, il est plus important que le jour du jugement. Parce que Yom Kippour, c'est comme un ange et tout. Tu reviens à la madriga de Adam Arishon avant la faute. Donc j'imagine que tu es plus grand. Mais comment à Sukkot, tu peux arriver à un niveau plus élevé que Yom Kippour, frérot? Comment à Sukkot, on peut arriver à un niveau plus haut que qu'un... Écoutez ce pchad là, vous allez kiffer ce pchad là. Vous allez répéter à Sukkot. En mon nom. Dis-le à Rizal, écoute ce pchad là. Et dis Yom Kippour. Dis quand, imagine, tu t'es embrouillé avec ton copain, avec ton super copain. Vous êtes embrouillé grave, ça fait 2 mois que vous n'avez pas parlé. Ou 6 mois ou 1 an que vous n'avez pas parlé. À sourd, hein, mais bon. Après que vous parlez, tu ne vas pas oser lui dire, bon, dis-moi alors, qu'est-ce qu'il y en a avec ton business? Qu'est-ce qu'il y en a? Le business, on le remet, le business qu'on avait parlé de le faire ensemble, on le refait maintenant qu'on est... Tu ne vas pas oser, Nahan, puisque vous êtes en baston, vous êtes en froid pendant un an, Tu vas pas commencer à remettre les discussions qui sont chaudes de profit. D'abord, tu vas ressortir avec lui, tu vas avoir un petit coca zéro comme ça, ouais. Tu vas te calmer, un petit café. Ouais, vous allez kiffer ensemble, vous allez à la plage, ouais. Et après, tu vas commencer à revenir au galop, d'accord ? La même chose, Yom Kippour. Hachem, Yom Kippour, il est sympa, il a effacé tout. Mais il y a cette ambiance de distance. On est distant avec Hachem. Parce qu'on a honte. Tu vas lui demander, il t'a enlevé les fois, tu vas encore lui demander quelque chose. Ça y est, calme-toi, attends un petit peu. Soukot, c'est un autre niveau. Soukot, vous savez que la souka, le minimum des panneaux qu'il faut faire, c'est 2 panneaux. Et la troisième, 1 tefar. Il dit, le Ariza, il dit, comment tu enlaces quelqu'un ? Il dit, comment tu enlaces quelqu'un ? Quand tu enlaces quelqu'un, un copain, tu peux enlacer n'importe qui. Je ne vais pas venir l'enlacer. D'abord, je dois lui serrer la main, lui parler. Après, je l'enlace. Et il va pas comprendre le type, je l'enlace. D'où tu me connais pour que tu m'enlaces, tu vois ? Enlacer, c'est un copain. Il dit, comment tu enlaces quelqu'un ? Ouais. Tu enlaces avec le bras, l'avant-bras et ça, d'accord ? Le bras, c'est un panneau, 2 panneaux et le troisième, un tefar. Ça, c'est un tefar. Il dit, la Riza, il dit que Soukot, pourquoi c'est plus important que Yom Kippour ? Parce que Hachem, il nous enlace. C'est-à-dire, imagine, maintenant, c'est-à-dire quoi, il nous enlace ? C'est-à-dire, ça y est, maintenant, il a oublié la distance. Il n'y a plus de distance. C'est pour ça qu'à Soukot, on est Bessimcha, parce que Hachem, il nous enlace. Il s'appelle Mechabek Otanou, il nous enlace. Et c'est ça, là, le niveau Soukot. C'est pour ça que le niveau Soukot, il y a écrit que, avec moi, dans Soukot, ouais, dans le 4e Pérec, il y a écrit que les Tzadikim, ils faisaient pendant les Chol HaMoed, ils faisaient quoi ? Ils faisaient la fête qu'on fait à Simcha Bet HaShoeva. À Simcha Bet HaShoeva, tous les rabbanim, ils sautaient en l'air. Pourquoi ils sautaient en l'air ? Alors les commentaires, ils expliquent, ils disent, pourquoi ils sautaient en l'air ? Parce qu'ils ont fait Rosh Hashanah, ils ont fait Elul, ils ont fait Rosh Hashanah, ils ont fait Yom Kippour. Ils sont montés à un degré de... Ils sont tellement au top, ouais, que d'habitude, toujours le corps, il te descend vers le bas. Le corps, qu'est-ce qu'il fait le corps ? Il te met au niveau bas, d'accord, le corps ? Le corps, il essaie de t'attirer vers le bas, vers le matériel. Et le spirituel, la neshama, il essaie d'attirer vers le haut, d'accord ? Donc toujours, toute l'année, tu as le corps qui te tire plus fort que la neshama. Mais quand tu as fait Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Soukot, tu es arrivé à un niveau que tu t'es détaché du matériel, tu es parti de ta maison. Alors là, il sautait en l'air. Ouais ? Pourquoi ? Pour montrer à Jboro, regardez Rabotai. Ça y est, on s'est détaché du matériel, on est complètement spirituel. La Neshama, elle a réussi à faire son ce qu'elle voulait. Vous avez compris ? J'ai dit que Rosh Hashanah, donc, il dit Rav Shapira un beau truc. Il dit que chaque fête, on revient à la même période, et donc on reçoit la Siata d'Ishmael qu'il y avait dans les fêtes. Et je finis avec ça et je vous laisse. Il dit Rav Shapira, il dit donc, Rosh Hashanah, on est obligé de revenir, de se questionner qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. On a dit que c'est l'anniversaire de l'homme. Donc il faut se questionner quand Hachem il a créé l'homme, qu'est-ce qui s'est passé ? Hachem, quand il a voulu créer l'homme, il a écrit Naaseh Adam, on va faire un homme. De suite Rashi dans le Chumash, ouais, il demande c'est quoi Naaseh, quoi ? Est-ce que Hachem il a fait l'homme avec une autre personne ? C'est quoi Naaseh Adam ? Hachem il a fait l'homme tout seul ? Non, Naaseh Adam, dit Rashi, il a questionné les malachim, il a questionné les anges. Je le crée ou je le crée pas ? Donc, comme il a questionné les anges, c'est pour ça qu'il a écrit Naaseh, on le fait. Mais c'est lui qui l'a fait. Écoute, donc d'après ça, on dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des groupes et des groupes d'anges. Un, il disait, il doit être libéré, il doit être créé. L'autre, il dit, ah, libéré, qu'il ne soit pas créé. L'homme, il ne vaut pas la peine. Il vaut la peine, il vaut pas la peine, il vaut la peine, il vaut la peine. Le temps qu'il se dispute, Hachem, il a dit, le temps que vous avez disputé, j'ai créé l'homme. C'est-à-dire quoi ? Qu'Hachem, il a dit, moi, j'ai créé un homme que toute sa vie, il est en mode de quoi ? De libaré ou à libaré. Chaque jour, c'est. S'il fait des mitzvot, voilà, libarbit, comme on l'a dit la semaine dernière. S'il fait des mitzvot, il faut qu'il soit créé. S'il ne fait pas de mitzvot, il ne faut pas qu'il soit créé. Donc le but de Rosh Hashanah, c'est quoi ? De faire en sorte, Hachem, il nous prend un par un. C'est quoi ton prénom ?
Gabriel.
Hein ?
Gabriel.
Hachem, il nous prend un par un. Il nous regarde comme ça, il dit. Est-ce que. C'est comme un patron, à la fin de l'année, il fait le bilan annuel. Il dit. Ce type-là, cette personne-là, ce Aaron-là, je le crée ou je le crée pas ? C'est-à-dire que chaque année, Hachem, quelque part à l'anniversaire, il te recrée, Naron. Donc il dit, je le crée. Est-ce que cet homme-là, il est fructif pour ma société ou pas ? Donc là, tous les accusateurs, ils viennent. Qu'est-ce que tu vas faire pour gagner les accusateurs ? Trois choses. D'abord, tu vas crier haut et fort, tu es le roi, Hachem, tu es le roi. Dès qu'Hachem va entendre ça, il va se dire, ben, s'il dit que c'est moi le roi, Forcément, ben oui, il est fructif. Deuxième chose, zichronot, tu vas le rappeler. Tu vas lui rappeler des souvenirs. C'est quoi ? C'est quoi tu vas rappeler des souvenirs ? C'est comme des pépés. Une pépé et une mémé, ils ont 90 ans, ils regardent un album de photos. Quand ils regardent l'album de photos, c'est pas juste pour regarder... C'est pas juste pour regarder... tu sais, on était plus maigre, on n'avait pas de cheveux blancs, on n'est pas ci, on n'est pas ça. On était mieux foutus, mal foutus, ouais. Pourquoi ils regardent l'album de photos ? Ils disent, regarde, notre lien qu'on a ensemble, c'est pas un lien qui date d'aujourd'hui. C'est un lien qui date de 70 ans. C'est ça qu'on dit à Hachem. Zichronot, on lui rappelle, on dit Dipsukim, ouais, dans le Moussaf, on dit Dipsukim de roi, Dipsukim de Zichronot. C'est quoi Zichronot ? On dit Hachem, regarde, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Noar, Adam Rishon, tous ces gens-là, notre lien avec toi, même qu'on a péché, c'est pas un lien de hier, c'est un lien, tu vas pas te fâcher. Ok, on est des hommes, donc on a péché, mais notre lien, c'est pas un lien d'aujourd'hui, donc sois cool. Troisième chose, shofarot. C'est quoi shofarot ? On sonne le shofar. Et le shofar, là, c'est la sortie de secours, comme on a dit. C'est casser, comme on a dit, Yericho, c'est casser les murailles. C'est quoi ? C'est comme, on a raconté, c'est comme la fameuse histoire de l'enfant, je l'ai raconté la semaine dernière ? L'enfant qui fait le cancre à l'école, et voilà qu'il revient, le directeur, il l'a jeté. Le père, il est au courant, donc il attend avec la calage son fils. Maintenant, son fils, il est intelligent, il passe par le bord de secours, il se faxe dans son lit. Et d'un coup, le père, il entend un cri comme ça de son fils. Ah ! Il pleure. Il dit, Makara, pourquoi tu pleures ? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? Et tout. Il voit son doigt plein de sang, il s'est coincé le doigt et tout. Il dit, mon fils, et tout. Et putain, il ne parle plus de l'école, et il est content. D'un côté, il a mal le fils, mais il dit, regarde, il a oublié le... Il a plus la cage, mon père. C'est-à-dire quoi ? Que le chauffard, c'est ça le chauffard. Le chauffard, c'est tous les accusateurs, les malachim noirs, le Satan, il est là, ils sont là. On sonne le chauffard. Pitom Hachem, il entend le coup de chauffard, c'est le cri caché, la bombe atomique d'Hachem, le cri caché. Donc dès qu'il entend ce bruit-là, il fait tomber tout par terre, les malachim, le satan, il attrape ses enfants, il dit je vous aime, et j'écoute rien, il met des boules qui aisent, il n'entend rien, et grâce à ça on est Zohri Bazine. Et c'est ça le travail de demain, c'est de rappeler Zéayoyim, Trilat Masirat Zekalojan, de rappeler que quoi ? Le travail de Rosh Hashanah, c'est de dire à Hachem, tu es Hachem, c'est toi notre papa, c'est toi, tu règnes, tu es... Non seulement, quand tu demandes à un non-juif, tu lui demandes, où il est Dieu, il va te dire dans le ciel. Quand tu demandes à un juif, où il est Dieu, il va te dire, il est là. C'est-à-dire que nous, on comprend que Hachem, il n'est pas que dans le ciel, il est là, il est présent Hachem. C'est ça la différence, c'est ça qu'on dit à Hachem, aujourd'hui, demain on va dire, Hachem, tu es là, on sait que tu es présent. Même si toute l'année je t'ai oublié, je sais que c'est toi qui tout décide, et je veux que tu vois Hachem, que tu nous signes. שנה טובה, תיקתם ותיחתם לאלתר, לחיים טובים ושלום, חזק ברוך.